Tout le monde peut voir ça. Ouais, il y a un petit peu de montage là, dans la photo, mais c'était pour le bien de la cause. Mais ça ressemble en ce moment à ce qui se passe avec le leadership aux États-Unis. C'est-à-dire, il est manquant. Le Congrès, le président sont en déroute en ce moment. Et puis, on les voit plus vraiment dans la nature, si on peut dire. On les voit plus en public. Parce qu'il se passe quelque chose de gros aux États-Unis. Ah, et ça, ben, je voulais vous montrer. Les gens sont en colère pour différentes raisons. Des raisons majeures. Et quand les gens vont dans les meetings politiques qui sont faits autour des États-Unis pour justement critiquer l'administration, la manière que les plans de santé, les politiques économiques, tout est en train de se faire à Washington et ailleurs, marche pas et en fait ces politiques-là vont tuer la population. Ce qui s'est passé, c'est qu'on voit un article ici. J'ai juste pris une petite partie, mais c'est Nancy Pelosi et Steny Hoyer qui ont écrit un article dans le USA Today. Ça, c'est un éditorial où ils qualifiaient les gens de anti-américains, ceux qui s'opposaient à la politique de santé. Et ça, ça n'a pas vraiment aidé leur cas, parce que, comme vous voyez, Barney Frank avait des bonnes raisons de ne pas être content à son town hall meeting, parce qu'on était là. On était là pour lui montrer qu'est-ce que sa politique vraiment est. Puis c'était dur de nous manquer. Donc là, c'est juste trois photos. Qui en fait, vous pouvez les trouver facilement sur Internet aujourd'hui. Ils sont partout. Surtout celle-là, en haut. C'est de là un peu moins. Mais on peut toujours voir, c'est nos organisateurs qui sont autour de Barney Frank pour lui souhaiter la bienvenue à son town hall meeting et l'escorter à la fin. Donc c'est dur de ne pas remarquer que c'est nous, en fait, qui sommes là. Mais là, ce qu'on a vu dans les médias récemment, c'est que c'est très mitigé. C'est-à-dire que LaRouche, ça fait longtemps qu'il a lancé la campagne et dit « Ok, la politique d'Obama, c'est clairement fasciste, c'est nazi. C'est la réplique, en fait, de ce que Hitler a fait dans les années 30 pour faire en sorte de tenir la ligne de l'ombre. » OK? Donc, c'était la règle des financiers qui était appliquée dans la politique allemande pour détruire la population. Et là, ce qu'on voit en ce moment aux États-Unis, c'est ça. C'est une bataille, pas juste pour rappeler Obama un nazi ou un Hitler. C'est une bataille pour revenir aux principes vraiment américains qui sont de se battre pour le bien-être général. Et on va parler un petit peu plus de ça, mais je voulais juste vous montrer ces images-là. Ça, c'était... OK, ça, c'est à l'extérieur du town hall. Ça, c'est à l'intérieur, où on a été capable de poser une question. Et là, cette question-là est en train de faire toutes les émissions, tous les reportages. Parce que, justement... Barney Frank a répondu d'une manière plutôt atroce, mais... avant ça, est-ce que je peux vous lire le transcript? Je l'ai ici. Ah non, je veux juste vous le faire jouer. Hein? Ah, Barney. Voilà. « Non, ça, c'est au Town Hall Meeting de Barney Frank. Je veux juste... Je vais vous faire écouter la question. Un petit peu de ce que Barney Frank dit. Si vous voulez l'écouter tout au complet, on peut l'écouter après, là.
Hey. I think the administration is missing something in these town hall meetings, which is that it's not just one group. The economy is collapsing. We have 30% real unemployment. 48 states cannot balance their budgets, and they are cutting programs to the bone. This is the context under which the Obama administration has said we need health care reform.
Well, let me tell you.
And I'm not done. The reason why is because they say we need to limit Medicare expenditures in order to do that, in order to reduce the deficit. That's the origin of this policy. This is the T4 policy of the Hitler, of a Hitler policy in 1939, where he said certain lives are not worth living. Certain people, we should not spend the money to keep them alive, which is exactly what Ezekiel Emanuel has said. So my question to you, one, is this policy is actually already on its way out. It already has been defeated by LaRouche. My question to you is, why do you continue to support a Nazi policy, as Obama has expressly supported this policy? Why are you supporting it?
Let me, I want
a real solution.
When you ask me that question, I am going to revert to my ethnic heritage and ask to your question with the question, on what planet do you spend most of your time?
All right. Est-ce qu'on peut avoir la lumière? S'il vous plaît. OK. Non, je voulais l'arrêter juste là. Pour voir qu'est-ce qui s'est passé là dans ces quelques secondes. Parce que ça s'est passé vite quand même. Mais qu'est-ce qui a été dit? Là, en ce moment, ça, le vidéo est en train de faire sa cour sur l'Internet. Tout le monde le voit, tout le monde le commente, tout le monde sait que ça s'est passé dans le Massachusetts hier. Et ce que Rachel disait, la jeune femme qui a posé la question, ça commence en disant, ben, l'économie, on est à 30% de chômage. L'économie s'effondre, puis l'administration ne tient pas ça en compte. Ça, c'est une grosse partie de ce qui manque en ce moment dans la discussion sur la santé ou sur l'économie ou sur peu importe. Et qui enrage les gens parce qu'elle dit au départ aussi, ben regardez, c'est pas juste un groupe qui est ici là pour critiquer. C'est toute une population. Alors, c'est des démocrates, c'est des républicains, c'est... les libertariens, c'est tout ce que vous voulez. C'est la population américaine, dans le fond, qui est là pour dire « assez, c'est assez ». On ne peut plus en prendre, là, des coupures. Et là, Eva, ben, dans la question de la faillite des États, il dit « 48 des États ne sont pas capables de balancer leur budget, de signer un budget, ils sont en train de couper, justement, dans tous les programmes. » Jusqu'à la moelle. Et l'administration Obama, à ce moment-là, dit que c'est le temps de rationaliser ou de couper dans les soins de santé, dans Medicare, pour essayer de réduire le déficit. C'est exactement ce que Obama a dit de manière répétée dans tous ses discours. Il faut couper dans les dépenses. On dépense trop en santé. OK. Mais c'est pas en créant un conseil privé qui va décider de quels soins vont être donnés ou pas à tel ou tel patient que l'économie va vraiment reprendre. Et c'est ça le gros problème qu'on est en train de voir, non seulement aux États-Unis, mais qu'on doit... Il faut vraiment que les gens soient au courant de ça. C'est, le débat n'est pas est-ce que les républicains ont raison ou est-ce que les démocrates ou est-ce que qui qui a raison sur quoi. Mais c'est pourquoi on a un système de santé, premièrement, pour garder les gens en vie. J'espère. C'est ça l'intention. Et à ce moment-là, ben, comment on va avoir une économie qui fonctionne pour garder les gens en vie aussi? Mais ça, c'est occulté du débat. Et puis, bon, si vous voulez écouter le reste de la vidéo, on pourra le faire après, là. Mais Barney Frank fait seulement son arrogant à la fin, et puis, en fait, très condescendant. Mais il répond jamais à la question, parce que lui, il supporte la politique d'Obama. Il dit plein de choses pour essayer de diluer. Il dit « Ah, mais moi aussi, je suis pour un système de santé universel. » Mais pour l'instant, c'est pas dans le bill. Fait que, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait qu'il supporte quand même le projet de loi. Mais plus que ça, quand je vous ai montré la photo... voyons voir, retournons ici. Quand je vous ai montré cette photo-là ici, on va mettre plus gros. Ça, c'est un des pamphlets qu'on a sorti. Ah, est-ce que je pourrais la lumière, s'il te plaît? Pour faire sûr que vous voyez. Est-ce qu'on en a encore des copies dans le coin? Je pense pas. J'en ai pas trouvé ici, en tout cas. Mais si on en trouve, c'est sur le site internet. Mais ça s'appelait, le pamphlet s'appelait Tantamount to Treason. Et ça, ça a été sorti au mois de octobre 2008. Et c'était sur le bailout. C'était sur la politique du bailout, du renflouement bancaire, qui était en train d'être poussé. À l'époque, c'était seulement 700 milliards. Mais là, c'est plutôt à la hauteur de 23 trillions de dollars. Donc, à l'époque, c'était seulement 700 milliards, mais, ou 800 milliards, mais les gens qui étaient derrière, c'est des gens comme Barney Frank.
Ça, sa photo est dessus.
Exact. Dans sa photo, si vous ne la voyez pas, il y a Barney Frank, Nancy Pelosi, que je vous ai montré juste avant, qui avait dit que les gens qui critiquaient la politique de santé était pas américain, en fait. Était anti-américain. Avec Hank Paulson. Et l'autre, c'était Chris Dodd. Mais bon, si on en trouve des copies, je vous en donnerai. Sinon, c'est sur le site internet. Mais Barney Frank, c'est ça. C'est intéressant de voir que lui était pour le bail-out du secteur financier de Wall Street. En fait, l'argent n'est pas nécessairement resté aux États-Unis. Il y a beaucoup de l'argent des taxes des Américains qui est allé pour sauver des banques européennes. Et on peut imaginer asiatiques et autres. Mais ce même Barney Frank, Barney Bella, maintenant dit qu'il faut couper dans les dépenses de santé. On ne peut plus dépenser comme des fous, là. Ça ne marche plus. C'était correct pour Wall Street. Mais là, la santé, pas aussi important. Donc, on est intervenu à plusieurs reprises avec nos pamphlets, avec nos pancartes, avec nos posters. Et là, ça fait du bruit en masse sur Internet. On a exposé cette politique-là pour ce qu'elle est. Une politique fasciste. Et il y a beaucoup de gens qui se sont ralliés à nous parce qu'ils se sont rendus compte que justement, oui, c'était pas un vrai débat que l'administration voulait avoir sur la santé, mais c'était un débat sur qu'est-ce qu'on allait couper. Et là, en ce moment, les Américains qui perdent leur maison, perdent leur emploi, perdent leur santé, perdent pas mal tout, ils n'ont plus rien à couper. C'est là où on voit un phénomène justement où c'est pas juste des démocrates ou des républicains qui vont à ces meetings-là, mais c'est la population en général qui se dit ben il faut que je me défende. Parce que les gens au pouvoir semblent pas être au courant de ce qui se passe dans nos vies. Ils ont été à Washington trop longtemps. Donc, c'est de ça que Rachel parlait au début. La situation économique actuelle aux États-Unis, c'est ça. Et en fait, c'est au niveau international. Ça représente la situation qui s'est... ce qui a été généré depuis la destruction du système de Bretton Woods en 1971, où justement, là, l'économie physique est totalement à plat. Donc, les baby boomers ont eu du fun à Wall Street. Ils ont spéculé en masse. Mais toute cette spéculation-là a rien fait pour assurer un avenir aux générations futures. Et là, on se retrouve à un point de crise où les gens se disent « Ok, ben on peut plus continuer comme ça. » Parce qu'on est en train de mourir. Les politiques appliquées par les gens au pouvoir sont en train de nous tuer. Donc, il y a une révolte qui est en train de se créer. Et Mathieu va vous en parler un peu plus en détail. Pour faire le parallèle avec la Révolution française. Mais je voulais juste vous pointer quelques trucs, parce qu'il y a des sondages qui sont sortis aussi ici au Québec, qui mentionnaient, parce que là, on parle de la situation américaine, bon, le monde est en faillite, ok, mais qu'est-ce qui se passe avec le Québec? Est-ce qu'on fait toujours partie du même monde? Ou comme Barney disait, sur quelle planète on se trouve? Est-ce qu'on est toujours sur la même? Ben, je sais pas. Mais je pense qu'on a des indices ici.
Question.
Oh, une question? Déjà?
Une question.
Okay.
Mais
ouais.
J'avais entendu, en fait, hier sur CNN qu'il y avait des organismes aux États-Unis qui ont constaté que dans le gros document que les démocrates ont voté,
ouais.
Il y avait, disons, aucune mention sur l'autisme, une condition comme l'autisme, mm-hmm. Une chose qui était comme précédemment couverte par l'État, tout ça.
Okay.
Puis, par extension, ces groupes-là, leurs antennes se sont dressées là, par rapport aussi, par extension, à des groupes handicapés en général,
ouais.
Ce qui pourrait comme refléter davantage l'orientation fasciste.
Mm-hmm. Ah ouais, c'est clair. Mm-hmm. La dernière fois, est-ce qu'on avait, je me rappelle plus, est-ce que on avait montré à un moment donné le clip, ah mais peut-être que t'étais pas là, mais le clip où il y avait le père avec son enfant, son jeune, c'était quoi sa maladie déjà?
Cerebral
palsy. Ouais, je sais pas c'est quoi en français.
Cerebral palsy.
C'était, il était handicapé. Paralysie cérébrale, c'est ça. Voilà. Qui s'était rendu à un de ces meetings-là? Un meeting de... C'était qui déjà? C'était John Dingell, au Michigan. Où on était aussi, mais lui avait fait une forte impression parce qu'il était arrivé avec son jeune, son fils en chaise roulante. Puis il avait confronté John Dingell directement. Il avait dit, regarde, sous ton projet de loi que tu soutiens, le projet de loi d'Obama, mon enfant n'aurait pas de service. Il n'aurait pas de traitement. Il n'y aurait rien. OK? Et là, John Dingell a dit, « Ouais, non, mais il y a un amendement là, qu'on a fait passer. Il y a un amendement avec la loi. » Puis dans une autre entrevue, le lendemain matin ou dans les jours qui ont suivi, ce père-là a été interviewé pour voir, OK, c'était quoi sa situation. C'était avec un groupe, justement, ou est-ce qu'il était allé à la rencontre juste de manière spontanée? Puis, ouais, c'est dans l'entrevue, il disait, ouais, moi, je suis simplement un père d'un enfant handicapé qui, sous le projet de loi d'Obama, ne recevrait aucun traitement. Puis, John Dingell, il ne pouvait pas me dire le numéro de l'amendement dans lequel ce serait couvert, parce que l'amendement n'existe pas. Il y a d'autres, des avocats qui justement avait été sur la radio et tout ça pour commenter ce qui s'était passé à ce moment-là, à ce town hall meeting-là. Puis il disait c'est complètement fou, là, parce que justement, il y a plein de personnes qui sont laissées à l'extérieur. Il n'y a même pas l'amendement, il n'y a même pas de numéro, il n'y a même pas. Donc, ouais, ben, ce qu'il faut voir derrière, c'est ça. Ils ont peut-être coupé sur les amendements ou coupé sur le papier parce qu'ils voulaient économiser déjà. Ils commençaient à économiser dès le départ, là. Parce qu'ils étaient déjà rendus à 2000 pages. C'est quand même, là. Mais le père, ce qu'il disait, c'est « Ah, ben, si ce plan-là est si bon pour toute la population, pourquoi ils ne l'introduisent pas à ces gens-là comme John Nego et puis la famille d'Obama et tout ça? Hein, pourquoi il y aurait besoin d'amendements pour spécifier que, en fait, c'est tout le monde qui est… Tu sais, on ne va pas mettre des gens à l'écart. Pourquoi il y aurait besoin d'amendements si la loi est si bonne que ça? Si c'est une réforme qui est vraiment pour restructurer le système en tant que tel. Donc, ouais, il y a plein. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je voulais vous parler de la situation ici parce que j'ai vu récemment, c'était dans. Bon, j'ai pas exactement la citation avec moi ici, mais. Une étude qui est sortie qui disait qu'à l'entour de 75% de la population ici au Québec, bon, je pense que l'échantillon du sondage avait été de 800 personnes, là, mais bon, si on extrapole, si on généralise, que 75% de la population ici au Québec était pour l'euthanasie. OK? Puis là, ça revient. Le Collège des médecins du Québec avait recommandé il y a quelques semaines, je ne me rappelle plus. Exactement, mais de décriminaliser l'euthanasie. Il y a un congrès québécois de l'Association féminine d'éducation et d'action sociale qui tient à Saguenay en fin de semaine où ils disent que le débat sur l'euthanasie va être sur la table. Ça va être une des questions éthiques qu'ils disent plutôt sensibles qui va être discutée. Donc, ça se passe aussi ici au Canada. Puis, il y avait un exemple à Vancouver où il y a des milliers d'opérations qui sont en train d'être reportées ou même cancellées face à la situation actuelle. Il y a simplement plus la capacité de faire les opérations. Donc, c'est pas juste quelque chose qui touche les États-Unis, mais ça se transporte en ce moment. Donc, j'ai pas tant d'exemples de ce qui se passe ici pour l'instant, mais je voulais juste vous donner ceux-là pour vous donner une idée. Des fois, les gens critiquent, parlez pas de ce qui se passe ici. Mais on est dans la même crise financière mondiale. Je voulais passer ici. Quand Rachel disait dans la question qu'il y a 48 des États américains qui ne peuvent pas passer leur budget, qui sont à court d'argent, qui ne sont pas capables de définir comment ils vont pouvoir payer pour les services qu'ils offraient dans le passé, ben ils font des coupures. Puis là, bon, ici, j'ai une liste qui a été faite, une étude par stateline.org, qui montre un peu comment les différents États ont coupé dans la santé ou coupé dans les services sociaux qu'ils donnaient auparavant. Donc, ça, c'est une liste un peu rapide. Là. Il y a plus. C'est pas exhaustif. Mais juste pour aller à travers. Bon, donc, 35 États ont coupé dans l'enseignement supérieur. 26 ont coupé dans le financement des prisons, juste. Si vous vous rappelez de la Californie, qui ont relâché 40 000 prisonniers. Merci à Schwarzenegger. Dans 7 d'entre eux, 7 de ces États-là qui ont coupé dans les prisons veulent même en fermer. 17 États ont obligé les fonctionnaires à partir sans préavis ni indemnisation. En tout, cela concerne environ 850 000 personnes. quatre États ont demandé aux patients de Medicare de prendre davantage sur eux-mêmes la charge des dépenses. 8 États arrêtent d'assurer les soins Medicaid facultatifs, tels les soins dentaires. Donc, ça se passe où on est dans une situation où Larouche a justement mentionné, a émis un mémo pour dire, regardez, la fin de l'année fiscale américaine arrive au mois d'octobre. C'est fin septembre. Au mois d'octobre, les comptes seront rendus publics. Et donc, on saura au niveau fédéral, on saura où on se tient pour vrai. Et si on va avoir besoin d'un nouveau bail-out, sûrement. Mais, en fait, non. Ça pourrait faire en sorte que, justement, la crise, la faillite généralisée des États-Unis fasse en sorte de déclencher la crise au niveau international. Et ça, c'est important à savoir, parce que ça nous remet dans le contexte où, justement, on a un système monétaire qui est en faillite, un système monétaire britannique, et où les Britanniques ne sont pas nécessairement contents de ce qui est en train de se faire. Une autre, ouais?
J'ai une autre question. Apparemment, comme J. Rockefeller, mm-hmm. comme même, je pense que le comité qui fait l'oversight des finances dans la Chambre des représentants.
Ouais, ouais.
C'est une des personnes qui insiste le plus apparemment sur le fait que cette réforme passe.
Ben oui, J. Rockefeller. Ok, ouais.
Ouais, mais je sais qu'il y a comme un genre de comité là, avec Max Baucus, J. Rockefeller. En tout cas, il y a comme
ouais.
quelques personnes. Mais en particulier, J. Rockefeller, ça fait dresser les oreilles.
Ben, ouais. L'idée derrière la. Ce qu'ils sont en train de faire, ben, Jay Rockefeller, c'est lui qui a présenté un des projets de loi sur la réforme de la santé, du système de santé, pour faire en sorte qu'il y ait le conseil privé dont on parlait, de 4 ou 5 personnes, experts, soi-disant, qui seraient les personnes en charge de décider des soins de santé, qui reçoit quoi. Sur quelle norme? lui, c'est ce qu'il propose. Il dit qu'il faudrait avoir vraiment un conseil d'experts qui serait à l'extérieur des frontières, des limites du Congrès. Il ne faudrait pas qu'il y ait aucune politique qui soit impliquée là-dedans. Donc, c'est au-dessus de la Constitution même. C'est pas dans. Ça serait de style réserve fédérale. C'est ça que lui, puis c'est sur son site, en fait, sur son site internet. Ça, c'est ce qu'ils ont appelé le iMac, ou le MedPack on steroids, qu'Obama a appelé. Mais c'est un plan, ça, c'est le T4 de Hitler, auquel j'allais venir. Mais c'est le plan pour l'euthanasie que Hitler a passé en 1939, quand il a dit, OK, là, c'est plus juste... Les personnes, c'est plus juste les Allemands qu'on va éliminer, les personnes malades mentales ou déficientes ou handicapées et autres avec des problèmes génétiques ou héréditaires, qu'il disait. Mais, ok, je voulais juste ramener, juste avant de passer aux Britanniques, on va en avoir assez à dire sur eux ce soir. Mais avant d'arriver là, je voulais juste mentionner que ça en a surpris quelques-uns quand même. Mais j'espère que vous êtes aussi d'une certaine manière que ça vous pose un paradoxe. Que le fait que, en fait, ce soit Larouche qui a été le premier à sortir et à dire « c'est Obama ». Obama a une politique de nazi. Et puis ça fait déjà 3 mois. Mais les médias n'ont pas nécessairement commencé à couvrir la situation et à dire, ah ouais, il y a Il y a les républicains qui veulent pas que leur taxe augmente, puis il y a la rouge qui dit que Obama c'est un nazi. Ils ont juste dit, ok, c'est les extrémistes de droite qui veulent pas du plan de santé d'Obama parce qu'ils veulent pas que les pauvres soient aussi assurés. Ok. Ça, on l'a entendu souvent, cette affaire-là. Même ici à Montréal, dans les rues, quand on l'organise, ils disent, quoi? Vous êtes contre Obama? Le meilleur président des États-Unis? Oui, on est contre pas sa personne en tant que telle, mais contre ses politiques, parce qu'elles sont fascistes. Puis là, c'est là que les gens, ça les rend un peu perplexes et on dit, mais nous, on est pour un système de santé public universel. Ben, universel. On est pour un système de santé universel. Une couverture. Et là, les gens disent, attends, c'est bizarre. Je pensais que vous étiez tout comme les autres conservateurs, extrême droite, blablabla, puis c'est ça qu'ils disent aux journaux. Ils disent, ouais, ben c'est ça, les journaux ont des gros problèmes ces temps-ci. Non seulement on est en train de faire faillite, parce que les gens lisent plus les journaux, mais ben peut-être qu'il y a une raison, peut-être que c'est parce qu'ils comptent trop de mensonges, justement. Mais Larouche, lui, a répondu à Obama directement. Quand Obama lançait le défi, à un moment donné, dans un de ses meetings, il disait, c'est quoi votre alternative? Ceux qui critiquent ma politique, ils n'ont pas d'alternative. Le pire qu'on pourrait faire, c'est rien faire. Là, Obama, Larouche a dit à Obama, ben, OK, tu demandes une solution, je vais te la donner. Un, élimine les HMO. OK, le système qui avait été introduit par Nixon en 73. Pour justement couper dans la santé. Élimine ça, premièrement. Rétablis le système du Ilberton Act, qui a été passé en 1946, et qui faisait en sorte de demander, faire en sorte que la couverture, en fait, aux États-Unis, c'était le système de santé publique, mais c'était de faire en sorte que par capita, par habitant, par 1000 habitants, il devait avoir 4,5 lits d'hôpitaux partout aux États-Unis. Et ça, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'ils sont parvenus à avoir le 4,5 lits par 1000 habitants en 1975, 2 ans après que le HMO soit passé. Et juste après ça, ça a commencé à diminuer. Où là, en ce moment, on a environ, ben, je vous parle aux États-Unis, 3 lits par 1000 habitants, puis 2000 hôpitaux qui ont fermé depuis 1973. 2000. Donc. Mais ça fait. Cette image-là, c'est sûrement l'image qui a fait le plus le tour du monde. C'est l'image de Danny Moloshock pour Reuters. Puis cette image-là, c'était l'image où il montrait. Oups. Où il montrait justement, il disait les extrémistes, il passait de l'image d'Obama avec la moustache à Rush Limbaugh qui disait genre quelque chose sur Obama. Mais en fait, ce que tous les médias oubliaient de dire, c'était que c'était Larouche qui était derrière la campagne. Sur Obama, la campagne Obama et ça. Et qu'on est pour un système de santé universel. Bon. Il y en a d'autres qui sont élevés contre la politique d'Obama. Et dans le Parti démocrate. Et qui ont dit, OK, Obama est en train de se couler, là, lui-même. Moi, je veux pas couler avec lui. Et des gens comme, justement, John Conyers, qui lui, en fait, c'est la personne, c'est le congressiste qui a poussé ici le HR-676. Ça, c'est son projet de loi, à John Conyers. Pour avoir un système de santé, une couverture universelle. Celle que soi-disant Barney Bailout soutient, là, c'est celle-là. Puis, juste pour vous montrer, ça ici, c'est les citations qui sont récentes, où Conyers, justement, ben, il veut pas couler avec Obama. Et peut-être qu'il pense qu'Obama pourrait encore changer, mais... C'est pas sûr. et qui s'adressait à lui en disant, Buddy, you're wrong on your healthcare, and it's going to cost you big time. This will not hold down costs. It will not cover everybody. The progressives are saying, this is a piece of crap, and we're not voting for it. Ça, c'était à l'anniversaire à Washington, D.C., des démocrates progressifs en Amérique. Mais il y a une opposition qui est en train de grossir. Puis ça montre justement juste un des aspects. Il y a des démocrates qui sont en train de se retourner complètement contre l'administration. Et qui, ça, c'est en train de d'alimenter ce qu'on a appelé le phénomène de grève de masse, ou mass strike en anglais. Qu'est-ce que Obama a fait des erreurs assez monumentales aussi récemment. Ou justement, ben Obama, lui, c'est pas les compagnies d'assurance son problème, c'est pas les compagnies pharmaceutiques, mais c'est les docteurs. Les docteurs sont trop payés. Puis bon, j'ai pas toutes les statistiques là-dessus, mais Obama disait récemment que les médecins, les chirurgiens étaient payés $50,000 par amputation, à laquelle les médecins, l'association des chirurgiens, 50 000 par amputation. L'association des chirurgiens a répondu à Obama et a dit 50 000? Non, c'est plutôt entre 740 et 1140. Donc, Monsieur le Président, je pense que vous devriez revoir vos chiffres. Mais c'est ça, il disait, c'est le American College of Surgeons qui a envoyé une lettre à Obama qui disait, je vais juste vous lire les deux premiers paragraphes, mais qui est basé à Chicago en passant. Et ça disait, The American College of Surgeons is deeply disturbed over the uninformed public comments President Obama continues to make about the high quality care provided by surgeons in the United States. When the president makes statements that are incorrect or not based in fact, we think he does a disservice to the American people at a time when they want clear, understandable facts about healthcare reform. We want to set the record straight. Yesterday, during a town hall meeting, President Obama got his facts completely wrong. He stated that a surgeon gets paid $50,000 for a leg amputation when, in fact, Medicare pays a surgeon between $740 and $1,140 per leg amputation. Sorry. This payment also includes the evaluation of the patient on the day of the operation, plus patient follow-up care that is provided for 90 days after the operation. Private insurers pay some variation of the Medicare reimbursement for this service. And it goes on. It's a longer letter than that. But that's kind of odd. C'est un peu bizarre. En tout cas, je sais pas. Peut-être qu'il parlait d'une compagnie pharmaceutique. Il a pas. c'est une grosse erreur. Ça fait pas vraiment de sens. Mais c'est ça. C'est ça qu'on a avec un Néron Obama.
What makes that even more evil is that he was alluding to the fact that these doctors, because they're getting paid so much for their amputations, that they're doing it unnecessarily, like taking out his kidney appendix.
Oh, yeah, right. Later. Yeah. What was it? Yeah, sorry. I should have read a bit longer. Okay. Yeah, okay. Je vais juste lire le troisième paragraphe, ouais. Parce que. Ouais, c'est ça. Ça fait ressortir ce que tu viens de dire, Mathieu, là, que il ferait juste faire des chirurgies pour avoir de l'argent. S'ils se font payer 50 000, hein. Mais là, il dit, OK, la lettre continue, il dit, 3 weeks ago, the president suggested that a surgeon's decision, that a surgeon's decision to remove a child's tonsils is based on the desire to make a lot of money. That remark was ill-informed and dangerous, and we were dismayed by this characterization of the work surgeons do. Surgeons make decisions about recommending operation based on what's right for the patient. Donc ouais, ça montre en fait dans quel état d'esprit le président est. Mais ça démontre aussi que la question n'est pas vraiment pour la santé des gens. C'est vraiment une question d'argent. Où va l'argent? Où est-ce qu'on pourrait trouver un peu plus d'argent? Où est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait couper à qui? C'est vraiment ça la mentalité d'Obama et de son administration, de behavioristes, d'économistes behavioristes. Ils disent, pour le bien-être de l'État, pour le bien-être de la société, il faudrait... Alors, il y a peut-être des personnes à qui on pourrait réduire les coûts. On pourrait peut-être se passer de traitement pour le cancer pour une personne qui a 85 ans. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui croient ça aussi. Mais, une petite tangente, mais je voulais juste... je voulais vous montrer aussi, parce que... Les gens disaient, ah oui, mais Obama... Et puis, on a ça souvent dans la population. Ah oui, mais Obama, lui, tu sais, il a dit au... Il veut vraiment les meilleurs soins, là, pour moins cher. Puis, il veut... Hein, il va... aller contre les grosses compagnies, c'est Obama, c'est l'homme du peuple, hein, qui va se battre. Et là, on voit, en fait, que sous la requête du Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, ou CREW, l'administration Obama a été obligée de faire sortir la liste de personnes, les lobbyistes, pour... les compagnies pharmaceutiques qui se sont rencontrées de manière secrète avec l'administration. Et là, ils ont dû publier qui, de quelle compagnie et combien de fois. Bon, là encore là, est-ce que c'est véridique, j'espère, mais...
Si ça a été un secret, comment ça, ils savent combien de fois ils ont...
Il y a des sources, en fait. Parce que l'idée derrière, c'est aussi de voir qu'est-ce qui est dans le projet de loi. Comment... Puis là, les gens commençaient à s'alerter. Ils disaient, mais j'entends pas parler de ci, de ça. La question, justement, des compagnies pharmaceutiques. Est-ce que par rapport à aussi Medicare? Medicare, c'est le système aux États-Unis qui prend soin de donner de l'assurance santé pour les personnes retraitées, les personnes malades chroniques, donc qui ont besoin de soins sur une longue durée, donc pour payer pour ça. Et là, il disait, dans la loi, dans le projet de loi, l'idée, c'était que du côté, genre, les démocrates qui se révoltent contre Obama, les gens disaient, mais OK, il faut avoir une couverture universelle, mais il faut aussi faire en sorte que le Medicare, que les gens, que cette assurance-là, ait le droit de dealer, parce qu'ils ont tellement, ils ont une grande portion de la population qui est sous Medicare, les personnes âgées surtout, ou retraitées, en fait, qu'on devrait être capable, sous Medicare, de faire un accord avec les compagnies pharmaceutiques pour faire descendre les prix. Mais dans le projet de loi qu'ils sont en train de pousser, dans la réforme, ils n'en parlent pas du tout. Il y a même un accord qui a été fait avec les compagnies d'assurance, les compagnies pharmaceutiques et autres, pour faire en sorte que les assurances vont peut-être diminuer d'une certaine manière. Mais c'est officieux, c'est pas officiel. C'est pas dans la loi.
Ouais,
c'est juste un deal
ouais.
qui se sont fait dans dans la chambre arrière, là. Dans la salle, dans le backstory, comme on dit. Mais c'est ça. Là, on a bon, une liste de personnes, des PDG de différentes compagnies pharmaceutiques qui ont rencontré l'administration pour dire, tu sais, la loi sur Medicare, ouais, ok, on, ouais, ok, ok. Ah, on est d'accord. Ah.
Ça s'entend comme c'est des special interests.
Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est les special interests. C'est pas les personnes qui vont au town hall meeting qui sont les special interests. Ça, c'est la population américaine. C'est ceux qui ont voté aux élections. Ouais. Donc, juste pour vous donner une petite idée, il y a un article plus en détail là-dessus sur le site. Mais. Donc, qu'est-ce que c'est que la réforme de santé d'Obama? Ben, c'est pas une couverture universelle. C'est pas les prix moins coûteux pour les médicaments. Donc, c'est simplement... Ah, ça, ça allait... ça va ensemble, désolé. C'est rien de nouveau sauf un T4. Qui était la politique de Hitler. Bon. Sur ce, ben, on va parler des Britanniques un peu. Parce que depuis que le nom de LaRouche est sorti dans les médias... Ah! J'ai oublié quelque chose. Ouais, Grégoire, pose ta question. Ah oui, ça, c'est, ben, c'est un des conservateurs de droite, là, qui est mentionné souvent dans les médias pour dire, ah ben, vous savez, les gens qui sont contre la politique d'Obama, c'est surtout des gens qui écoutent Rush Limbaugh. C'est ce gang.
Qui
est
ça?
Rush Limbaugh. Le nom est ici. Whoops.
Ça, c'est un politicien américain.
C'est un gars qui fait de la. Je pense que c'est un genre de.
Romancier.
C'est un genre, ouais. Plus, il fait de la radio. Right.
Ah,
il fait de la radio, puis il aime pas Obama. Il aime pas grand chose, en tout cas. C'est ce que j'ai entendu
Rush.
Dire. Ouais. Donc, mais... vu qu'il y a eu cet intermède, je suis censé vous parler de ça aussi. Quand on a dit qu'on parlerait... Désolé, j'étais un peu nerveux. Mais, je sais pas si vous avez lu Le Devoir récemment. Mais ça, c'est la page... A7 du Devoir du 19 août, donc d'hier, où ils ont publié notre poster d'Obama avec la moustache. Bon, l'article est pas mal médiocre, là, mais l'image, comme on dit, vaut mille mots. Donc on va en rester là. Mais... pour en venir aux Britanniques, bon, ça c'était le lien. On est au Canada, donc, colonie britannique, donc, non. Allez, laissez faire les connectos. Mais, donc, depuis que le nom de LaRouche est sorti publiquement, et que certains médias, certaines personnes se sont rendues compte que c'était, oui, c'était le nom de LaRouche qui est en dessous, ici, là. On peut le voir de manière claire. Même si ça n'avait pas été rapporté au départ. Les médias avaient cru que LaRouche Limbaugh, c'est pas la même chose. Ben non, pas tout à fait. Puis, ça a fait freaker, comme on dit, plusieurs personnes, puis plusieurs institutions, au point tel que les Britanniques ont dû sortir publiquement, puis de tous les côtés, du côté autant travailliste de Labour que... Les conservateurs sont sortis et ont fait l'apologie de leur système de santé publique en Grande-Bretagne. Mais ce qui manquait derrière, c'est que ils ont parlé du NHS, qui est le National Health Services. Mais le vrai problème, c'est pas nécessairement le NHS, c'est pas la couverture universelle. Le problème, c'est le NICE, qui a été imposé par-dessus le NHS, qui est the National Institute for Healthcare Excellency, qui, elle, est l'institution de rationnement de la santé en Grande-Bretagne. Et ça, c'est le plan, c'est l'idée de T4, c'est l'idée de rationnement, de cost effectiveness, qui est ramenée par les économistes de l'administration Obama, et qui est poussée par Obama, par les gens comme Barney Frank et autres, pour couper dans les soins de santé. Donc, ça fait freaker pas mal de monde, de l'autre côté de l'Atlantique, et les Britanniques ont dû sortir pas nécessairement un lapin de leur chapeau, mais plus des menaces, en disant, ben, si Obama n'est pas en train de passer la réforme fasciste qu'on lui a proposée quand il a été élu, peut-être que Obama, en fait, est plus intéressant pour nous, pour les milieux financiers, pour ce qu'on veut vraiment faire avec les États-Unis puis avec le monde. Donc, ils ont sorti, ça, ces deux articles ici, dans The Independent, puis dans The Observer, c'est une branche, c'est un dossier dans The Guardian, qui disait, ah ben, le débat sur la santé, ça fait, il y a beaucoup, c'est les passions, c'est folle, c'est tout le monde est bien émotif, puis ça, on peut s'attendre en fait à des dérapages, même des tragédies, où en fait, même la vie du président est en danger par les groupes extrémistes d'extrême droite et ainsi de suite, là, comme on a vu auparavant. La Roche a écrit un mémo pour répondre à ces deux articles-là, pour dire, ben, premièrement, les Britanniques, on les connaît. On sait que quand il y a un danger pour la vie d'un président, normalement, ça vient pas des États-Unis, mais ça vient de la Grande-Bretagne, ça vient de l'Empire britannique. Et que, oui, il y a des possibilités que le président soit assassiné en ce moment. Ça, c'est quelque chose qui est très réaliste en ce moment. Mais Larouche dit, OK, faut protéger le président. Faire en sorte qu'on le protège puis qu'on le garde en vie, parce que le chaos que l'assassinat du président américain provoquerait, ça serait vraiment la destruction des États-Unis. Et c'est ça l'intention derrière les politiques, de toute façon, qui sont poussées par l'administration en ce moment. Mais là, ça provoquerait, c'est clair que ça l'amènerait, mais d'une manière totalement gigantesque. Donc là, à la hausse, je dis, ben, on est d'accord avec les Britanniques, l'Empire financier britannique veut tuer Obama. Ça, on est d'accord avec eux. Mais on va pas les laisser faire. On va justement organiser la population qui est en grève de masse, qui est écœurée par tout ce qui s'est passé, la destruction du système économique et social américain dans les dernières 40 années, qui peut plus en prendre plus. Là, on va organiser ces gens-là pour revenir à un vrai système de crédit, pour démanteler l'empire financier anglais et revenir au principe de la Constitution américaine. Question.
Mais est-ce que les Britanniques ne voudraient pas comme attendre de voir que Obama passe ou pas son système avant de...
Mais là, c'est ça. Le problème, c'est qu'en ce moment... Puis là, ça nous ramène un peu au début aussi, quand Rachel a dit « Cette mesure-là a été défaite par Larouche. » Dans sa question, elle a dit « De toute façon, votre projet de loi, là, on vient de le battre. Les gens en veulent pas. Ça passera pas. » Puis, l'idée, c'est qu'en ce moment, on est en train de voir les gens, genre de tous les côtés, républicains, démocrates, ils disent « OK, moi, je vote pas pour ça. » Comme on voyait avec John Conyers, moi je vote pas pour ça. Fait qu'il anticipe en ce moment que la loi puisse peut-être, s'il y a une ébauche qui sort là, des comités, que peut-être ça pourrait être signé dans les alentours de décembre.
Mais est-ce que les démocrates pourraient pas faire passer ça uniquement à travers les démocrates?
Non. Parce que même les démocrates, il y a une grosse partie des démocrates qui sont contre. Justement parce qu'Obama s'est compromis, qui a dit « Ah, ben l'option publique, c'est pas une section prioritaire. C'est pas vraiment ça l'idée de la réforme. C'est pas de donner la couverture universelle. »
That's out of the bag.
Right. Ça veut dire beaucoup. Mais c'est ça, il y a toute une partie des démocrates qui, eux, se battaient pour que genre, ça soit le point central de la politique d'Obama, que ce soit une couverture universelle. Donc, si Obama se compromet sur ce niveau-là, qui se compromet avec les compagnies pharmaceutiques, qui se compromet avec les assurances, là, dans le fond, il n'y a rien de nouveau, justement, dans la politique, puis ça ne passera pas. Dans les Britanniques, en ce moment, La Roche a raison. C'est pour ça que les Britanniques savent que La Roche a raison, puis que le système est dû en octobre. Donc, ils n'ont pas le temps d'attendre au mois de décembre, au mois de janvier, ils n'ont pas le temps d'attendre ça. Leur système s'écroule en ce moment. T'as une question, Pedro?
Ouais, je voulais dire, sur ça, en disant ça, si peut-être une crise avec un attentat sur le président,
mm-hmm.
peuvent comme créer une atmosphère d'un État comme policier,
ouais.
passer des lois comme mettons comment ils ont passé des lois après le 11 septembre.
Ouais. Ouais, c'est exactement ça que Larouche amenait dans son mémo, c'est que la situation serait de cet ordre-là. S'il y avait une tentative d'assassinat sur Obama, ça créerait une situation où ça donnerait de la sympathie pour Obama. OK, là, les gens diraient, bon, un peu comme un martyr, là, qui serait... Mais, en fait, c'est ça, ce serait vraiment une situation où les gens s'allieraient ensemble, pas nécessairement pour la bonne cause. Tu vois,
ouais.
comme envahir l'Afghanistan, pas vraiment une bonne cause non. après le 11 septembre. C'est pas.
Est-ce que la même chose peut se produire s'il y a comme une grosse crise économique encore?
Hein? Excuse?
Une crise économique?
Ouais.
Si le système tombe,
ouais.
tout d'un coup, est-ce que la même chose peut t'arriver?
Ben, d'une certaine manière, ouais. Je pense que ouais. Ça va être différent. Je veux dire, si c'était vraiment un assassinat, parce que là, les gens, c'est clair que, ben, je sais pas, ça pourrait être similaire dans un sens, mais ouais, ça pourrait prendre beaucoup de gens par surprise, puis créer une situation où certaines mesures seraient passées, j'imagine, mais c'est dur à dire, la question c'est est-ce qu'on va gagner? C'est plus ça. C'est est-ce qu'on va réussir à organiser les gens à reconnaître qu'il y a une solution que La Roche a proposée déjà depuis 2007, qui est de mettre tout le système en faillite. De dire, OK, plus de bail-out, plus de renflouement bancaire. On arrête les folies. Puis on rétablit une économie physique. Donc, sur ça, ben, je vais peut-être laisser un peu une fin un peu ouverte pour que Mathieu puisse intervenir. Tu pars? Non, m'attends pas, Mathieu. Je te donne le micro. Mais pour que, dans le fond, parce que cette question-là de l'assassinat, c'est un peu une situation où, justement, le parallèle avec la Révolution française est vraiment importante à faire. Puis j'en ai pas parlé parce que, justement, Mathieu va... une présentation là-dessus, mais c'est une situation où, justement, oui, on peut voir un système donnant de terreur et d'un système d'État policier être instauré alors que tu as une crise économique, t'as tout ça qui se passe. Mais Mathieu, c'est à ton tour.
Merci.